France Culture.
Les nuits de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
La science-fiction, en tant que telle, suscite de nombreuses controverses quant à sa délimitation. C'est sa définition même qui soulève les passions par rapport aux domaines voisins comme la fantasy ou le fantastique, ou encore ses courants comme l'anticipation, le courant scientifique ou philosophique. Pour les plus extrémistes, au fond, on pourrait dire que l'ensemble de la littérature n'est qu'une branche de la science-fiction. C'est le thème de cette émission « Les voix de l'avant-garde » qui réunissait autour de la table en 1958 sous la houlette de Youri, Jacques Bergier, Robert Canters, Pierre Devaux et René Barjavel pour, en quelque sorte, embarquer dans une machine à remonter le temps.
Les voix de l'avant-garde, une émission de Youri présentée par l'auteur et réalisée par Gérard Herzog. Assistant de production, Marc Darnaud. Aujourd'hui, la littérature de science-fiction, avec la participation de Jacques Bergier, Pierre Devaux, Robert Canters et René Barjavel. L'extrait du voyage de Gulliver de Jonathan Swift et la nouvelle de René Barjavel, Les rescapés du B-312, seront lus par Pierre Reynal.
Quand on prononce le terme de science-fiction, il est de bon ton de sourire. On évoque aussitôt les bandes dessinées de certains journaux pour enfants ou pour adultes retardés, les films de série B, un auteur en mal d'imagination. Pourtant, la science-fiction a depuis longtemps conquis ses lettres de noblesse. Pourquoi imposer au littérateur qui se permet par ailleurs toutes les libertés, les frontières sans cesse remises en question de notre temps et de notre univers ? Et si tout art est une tentative de dépassement de notre condition, une remise en question de notre monde, assurément la science-fiction peut être considérée comme un art. Il fut un temps où les romanciers se trouvaient obligés, pour avoir la liberté de s'exprimer, de déplacer leurs récits et leurs personnages dans le temps et dans l'espace. Au temps où la Perse et la Chine étaient des pays fabuleux, au temps où les Grecs et les Romains appartenaient à la légende, où les dieux et les fées vivaient à notre unisson, ils présentaient autant de refuges où la liberté d'expression trouvait asile. Ces refuges sont peut-être plus que jamais nécessaires. Cependant, à l'heure des Spoutniks et des voyages dans la Lune, l'anticipation présente un caractère nouveau. Nous y croyons parce que nous sommes d'ores et déjà entrés dans l'ère de la science-fiction. Celle-ci répond à une nécessité nouvelle, le monde est en complète transformation, sans même avoir fini d'explorer la planète, nous allons commencer quelques petits tours hors de notre cage et explorer le système solaire, et le public, dont la curiosité précède les réalisations de la science, veut savoir. Deux courants principaux, souvent mêlés, se partagent cette vieille province de la littérature. Au courant scientifique, celui auquel on pense le plus souvent, s'ajoute la grande tendance des moralistes. Notre monde est en perpétuel renouvellement, et si l'évolution sociale ou morale ne court pas au rythme du progrès scientifique, de tels changements dans les formes de la société, aussi bien que dans nos mœurs et notre façon de penser, de plus en plus soumises au réel, font que le romancier de science-fiction ne saurait pas plus demeurer à l'écart des préoccupations sociales et morales de son temps que des hypothèses scientifiques les plus audacieuses. Il est enfin nécessaire de rappeler que si de nouveaux champs d'expérience, de nouveaux domaines sont offerts à notre imagination, cette contrée n'était pas entièrement inexplorée, et déjà, Lucien de Samosate, Thomas Morus, et bien avant Cyrano de Bergerac, Voltaire, Jules Verne et Wells, Swift s'y était déjà aventuré.
L'île volante est parfaitement ronde. Son diamètre est de 3919 toises, c'est-à-dire environ 4 500, et par conséquent contient à peu près 10 000 acres. Le fond de cette île, ou la surface de dessous, celle qu'on aperçoit lorsqu'on la regarde d'en bas, est un large plateau de diamants polis d'environ 400 pieds d'épaisseur, au-dessus duquel des couches de divers minéraux se succèdent dans l'ordre accoutumé. Et le tout est recouvert d'un lit de terre végétale de 10 à 12 pieds de profondeur. Au centre de l'île est un trou d'environ 25 toises de diamètre, par lequel les astronomes descendent dans une grande excavation voûtée que l'on appelle Flandona Gagnol, ou la caverne des astronomes, située à la profondeur de 50 toises au-dessous de la surface supérieure du diamant. Dans cette caverne, 20 lampes brûlent sans cesse et, par la réverbération du diamant, elles répandent une grande lumière de tous côtés. Ce lieu est orné de sextants, de cadrans, de télescopes, d'astrolabes et autres instruments astronomiques. Mais la plus grande curiosité de laquelle dépend même la destinée de l'île est une pierre d'aimant d'une grandeur prodigieuse, taillée en forme de navette de tisserand. Cette pierre aimantée est confiée aux soins de quelques astronomes qui lui font prendre les positions ordonnées par le roi. Ils passent la plus grande partie de leur vie à observer les corps célestes avec des lunettes beaucoup meilleures que les nôtres, car les plus grands de leurs télescopes n'ont pas plus de 3 pieds, et ils grossissent les objets plus que ceux de 100 pieds ne le font chez nous et montrent les étoiles avec la plus parfaite clarté. Cet avantage leur a permis de pousser les découvertes bien plus loin que nous, et ils comptent 10 000 étoiles fixes, tandis que nos calculs les plus amples ne vont pas au tiers de ce nombre. De plus, ils ont découvert 2 étoiles inférieures ou satellites qui tournent autour de Mars et dont la plus proche de la planète supérieure est à une distance du centre de celle-ci équivalente à 3 fois son diamètre. Et la plus éloignée est à une distance de 5 fois le même diamètre.
Puisque nous parlons de Swift, comment le situez-vous par rapport à la science-fiction, Jacques Bergier?
Eh bien, Swift réunit les deux grands courants. Premièrement, la science-fiction basée sur la science, sur des inventions nouvelles. Sa soucoupe volante magnétique ou son grand télescope de la Puta sont de la science-fiction classique type Jules Verne. Mais en même temps, il fait de la critique sociale. Les deux courants s'y rejoignent.
Vous pensez que ce côté moraliste d'une part et scientifique de l'autre sont les lignes de force qui se partagent actuellement la science-fiction?
Ce sont deux des lignes de force, il y en a d'autres.
Est-ce votre avis, Bergevel?
Je crois que la science-fiction est actuellement un univers nouveau qui s'ouvre devant la littérature et que tous les genres sont possibles à l'intérieur de la science-fiction. J'ai l'impression que la littérature a besoin de s'évader de l'éternel petit problème du couple ou du couple à 3 ou à 4, des petites coliques sentimentales, des petites analyses intellectuelles dans lesquelles on se tortille depuis des siècles.
Non, vous êtes
cruel. La science-fiction est au fond une façon pour la littérature de se poser le problème non plus de l'homme, mais des hommes. Et à l'intérieur de ce nouvel univers, tous les genres sont possibles. Il peut y avoir de la science-fiction épique, lyrique, purement fantastique, satirique, philosophique, tous les genres, tout est bon. Ce n'est pas, la science-fiction n'est pas un genre, c'est une dimension nouvelle qu'a pris la littérature.
Est-ce votre avis, Robert Canter?
Je me demande si Bergevel ne vient pas de dire justement que la science-fiction peut s'annexer tout ce qu'elle veut dans le passé, mais s'il n'a pas, lui, tendance à annexer un peu tout à la science-fiction dans l'avenir, quand il nous parle ainsi d'un nouvel univers et des différents genres. Malheureusement, j'ai l'impression que dans la littérature de science-fiction du passé et du présent, nous n'avons pas encore beaucoup d'épopées, de tragédies, de grands romans, de grandes œuvres qui ouvrent vraiment cette voie nouvelle. Peut-être parce que la science-fiction reste en grande partie tributaire de la science ou d'un certain état de la science ou des rêves que la science fait pour son avenir, qu'il est très facile d'inventer de nouvelles machines, d'inventer des perfectionnements aux machines ou aux techniques qui existent aujourd'hui, mais qu'il est peut-être plus difficile d'inventer un nouvel homme ou une nouvelle vue sur les hommes, puisque Bergevel parlait des hommes tout à l'heure, comme nouvel élément ou nouveau thème de l'univers de la science-fiction.
Bergevel?
Oui, je crois que c'est simplement une question de talent, mon cher. La science-fiction telle que nous la concevons aujourd'hui, enfin, est une nouveauté. et un peu méprisée au sein du monde littéraire, il faut bien le dire. Nous autres pauvres écrivains de science-fiction, nous sommes les cousins pauvres. On nous regarde du haut de l'échasse, n'est-ce pas ?
Est-ce que c'est une question de talent ou est-ce que c'est une question de possibilité ? Je crois que c'est dans les nourritures terrestres qu'il y a quelqu'un qui dit « Je peux concevoir un monde où 2 plus 2 feront 5 ». Je vous en défie bien, répond-on. Est-ce que inventer un monde où un homme plus une femme feront quelque chose de nouveau, est-ce que ce n'est pas un ordre d'impossibilité comme celui du 2 plus 2 font 5 ? Tant qu'on n'a pas un nouvel homme, mais un nouvel homme que l'on trouverait, lui, par une exploration intérieure, par une psychologie des profondeurs ou quelque chose comme ça, plutôt peut-être que par cet élargissement qui donne les œuvres que vous connaissez bien et qui sont bien un peu dignes du mépris dont vous parliez tout à l'heure, toutes ces œuvres où on envoie les héros se promener à travers l'univers sans raison bien valable, où l'on fait s'affronter des empires galactiques extrêmement puissants qui ne sont en réalité que l'URSS et les États-Unis transposés dans un plus ou moins lointain avenir.
Oui, ça, si vous voulez, c'est ce que j'appellerais le côté populaire de la science-fiction. C'est une démonstration de ce que je vous disais tout à l'heure. Ce genre d'œuvre correspond au mystère de Paris, n'est-ce pas, et au roman feuilleton du XIXe siècle, c'est exactement ça. Mais à côté de ça, je me souviens d'avoir lu dans les premiers numéros de Galaxy un roman extraordinaire de Clifford Simak qui s'appelait, je crois, Dans le torrent des siècles, qui m'a laissé une impression bouleversante, qui est à la fois un mélange d'épopées, d'œuvres lyriques et qui vous ouvre des fenêtres extraordinaires, tout en vous emportant évidemment dans le vague, parce qu'il est certain, comme vous le disiez très bien, qu'il est difficile d'inventer 2 et 2 font 5. Mais je crois que l'intérêt de la science-fiction, c'est effectivement de mettre l'homme en face des problèmes qui se posent à lui aujourd'hui. Il n'y a pas de doute, nous allons aller dans la Lune. La Terre est une graine qui est en train de germer et la science-fiction est en train de dire aux hommes « voilà ce que vous allez devenir ». Elle le dit maladroitement parce qu'elle ne peut pas inventer, c'est effectif. On ne peut pas inventer ce qu'on ne connaît pas. L'imagination, ce n'est pas autre chose que la mémoire. Mais le fait de placer l'homme vers son avenir et de lui ouvrir les yeux est, je crois, un phénomène actuel de la littérature, un phénomène très important.
Cette tendance-là, c'est plutôt la tendance scientifique de la science-fiction. Et puisque nous établissions la liste des ancêtres de la littérature de science-fiction, quels peuvent être considérés les devanciers de la tendance scientifique, Pierre Devaux ?
Bien, je suis assez de l'avis de mon ami Barjavel. Je trouve que l'audience, si l'on peut dire, des écrivains actuels de science-fiction n'est pas aussi étendue que l'on pourrait s'y attendre. Car enfin, voilà des gens qui nous annoncent l'avenir, qui nous montrent les possibilités du présent, et on les considère un peu comme des amuseurs. Pourquoi ? Il y en a qui sont très bien documentés, qui font les choses très sérieusement. Il y a même des savants, maintenant, qui se mettent à écrire des romans de science-fiction. Eh bien, ils n'ont certainement pas l'audience qu'a eu, par exemple, Jules Verne. Pourquoi ? Il y a une raison d'époque, d'abord. Jules Verne a eu beaucoup de chance, il avait du talent, c'est entendu, de l'imagination, mais il est arrivé à un moment où la science offrait déjà de grandes possibilités, où en somme, on ne le savait pas. Où l'honnête homme, l'homme cultivé moyen, ne savait pas qu'il pouvait avoir des sous-marins, qu'il pouvait y avoir, enfin, toutes sortes d'applications. Il est donc arrivé à un moment particulièrement favorisé. Mais depuis, eh bien, on n'a pas rien. Aucun phénomène littéraire comparable à celui de Jules Verne dans la science-fiction. Peut-être y a-t-il une injustice, mais moi je crois à la base qu'il y avait le talent proprement littéraire général. Car si vous regardez de près l'œuvre de Jules Verne, vous voyez que les ouvrages qui nous frappent le plus, sauf peut-être 20 000 lieues sous les mers, ne sont pas les plus scientifiques. Que représente De la Terre à la Lune ou Hector Servadac, peut-être pas énormément de choses, tandis que tout le monde connaît Les Enfants du Capitaine Grant. Et c'est à peine scientifique. Et à l'origine, Jules Verne était un homme de théâtre. Il a écrit Les Pailles rompues qui ont été représentées. Cette règle générale que le vulgarisateur scientifique, enfin le romancier scientifique, soit à la base un romancier littéraire, semble être demeuré valable jusque dans l'entre-deux-guerres. Et à présent, ce n'est plus le cas. C'est ça, je crois, le vrai phénomène nouveau, que la science-fiction est devenue une chose indépendante de la littérature.
Et ceci nous expliquerait aussi qu'on nous reproche quelquefois, à nous, romanciers de science-fiction, de ne pas être des vrais littérateurs, c'est-à-dire implicitement de manquer de culture. Alors, c'est le problème de la culture dans la science-fiction, de l'homme, de l'humanisme dans la science-fiction, qui au fond est, je crois, le plus important.
En somme, vous pensez que ça n'est plus au littérateur de faire de la science-fiction, mais au savant?
Non, il faudrait arriver à ceci, que les littérateurs arrivent à intégrer dans leur culture générale l'essentiel de la science actuelle. Cela nécessite un gros effort, je ne sais pas s'ils le feront.
Qu'en pensez-vous, Barjavel?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'écrivain, le créateur, n'a pas besoin de savoir, il doit deviner. C'était le cas d'ailleurs de Jules Verne que vous citez, n'est-ce pas? Il a été bien en avance sur les réalisations scientifiques. Et aujourd'hui, si le malheureux littérateur voulait essayer d'être au courant des connaissances scientifiques, il n'y arriverait pas, n'est-ce pas? C'est pas possible. Les savants iront toujours plus vite que lui. Je crois que ce qui nous manque, il faut bien dire les choses comme elles sont, ce n'est pas d'ailleurs particulier à la science-fiction, ce qu'il y a en France en particulier, c'est que l'écrivain ne peut pas vivre de son métier, c'est qu'il est obligé de faire n'importe quoi pour gagner sa croûte, et qu'il n'a pas le temps nécessaire à consacrer à ses œuvres de création. Et nous avons des collections de science-fiction en France qui, pour la plupart, commandent à des écrivains un ou deux ou trois romans par an. Ces malheureux sont payés, il faut savoir comme, n'est-ce pas, à peu près au tarif d'une femme de ménage. Ils écrivent sur un thème, sur une idée qui leur vient, ils écrivent un roman en 15 jours, et qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Les collections de science-fiction en France sont à peu près au niveau des plus basses collections de romans policiers. Voilà ce qu'il faut dire. Mon cher Canter, je ne dis pas ça pour la vôtre, parce que c'est une heureuse exception.
J'espère, cher Barjavel, que vous prendrez place bientôt dans la collection Présence du futur. Vous n'en direz pas autant. Je me demande pourtant s'il n'y a pas d'autres raisons qui tiennent à l'époque, à cette différence de qualité, et même à la différence d'orientation de la science-fiction. Je me demande si, à l'époque de Jules Verne, on n'était pas dans une période d'expansion scientifique dont tout le monde avait conscience, malgré tout. Il y avait les énormes réalisations scientifiques du 19e siècle qui étaient tangibles, qui modifiaient à chaque instant le décor de la vie pour tout le monde.
Jules Verne
écrit la science-fiction à l'époque de la bourgeoisie conquérante, pour reprendre le titre de Morazet dans un livre récent. Tandis que ce qui me frapperait par rapport à cette science-fiction optimiste de Jules Verne, qui voit les choses, qui voit en avant de la science dans un sens de plus en plus conquérant, je me demande si la science-fiction d'aujourd'hui n'est pas en majeure partie une science-fiction pessimiste.
Sinistre.
La plupart du temps, les romans d'anticipation nous annoncent des catastrophes. Ils nous annoncent la fin de notre civilisation. La science n'a plus aujourd'hui ce pouvoir d'exaltation, ce pouvoir d'optimisme, peut-être parce qu'il y a eu une guerre, deux guerres, 10 guerres dans l'intervalle, et que la confiance est un peu ébranlée. Je ne sais pas si la science-fiction d'aujourd'hui est aussi optimiste qu'il paraissait dans les déclarations de Barjavel tout à l'heure, par exemple. Et ça, c'est peut-être un changement d'orientation de la société, un changement de la mentalité bourgeoise ou capitaliste ou occidentale, comme vous voudrez.
La presse y est bien pour quelque chose. Il est si facile de décrire que nous allons vers un Hiroshima général.
Mais il serait curieux de savoir si à l'étranger, en Russie par exemple, ce caractère pessimiste est également partagé par les auteurs de science-fiction. Jacques Bergier.
En Russie, ce n'est pas le cas. La science-fiction russe est résolument optimiste et elle prend en même temps une position très curieuse vis-à-vis de l'État russe. Ivan Efremov, qui est le plus grand romancier de science-fiction russe, l'auteur en particulier de La nébuleuse d'Andromède, a été récemment interviewé. On lui a demandé si ce personnage était communiste. Il a répondu non. À l'époque où se passent mes livres, le communisme est fini depuis longtemps.
C'est curieux.
C'est de la véritable science-fiction.
C'est une position marxiste, en somme, non?
D'une façon générale, je crois qu'il ne faut pas confondre la situation de la science-fiction en France et la situation de la science-fiction à l'étranger. À vrai dire, il se passe en France pour la science-fiction, ce qui se passe en France pour la science. En France, il n'y a ni crédit pour la science, ni moyens d'action, ni audience publique, et ça réjaillit sur la science-fiction. Mais dans le monde, ce n'est pas le cas. Dans les 10 dernières années, 3 fois, le prix Nobel a été donné à des science-fiction. Le jeu de perles de verre de Hermann Hesse, l'énorme épopée des science-fiction du Danois Jensen, les science-fiction de l'Islandais Loch Ness.
C'est peut-être un sens étendu de science-fiction. Le jeu des perles de verre, par exemple, ne me paraît pas un livre à proprement parler scientifique, si ?
Si.
Je crois qu'il y a également une différence entre les auteurs français de science-fiction et les auteurs américains particulièrement, et une différence qui relève un peu de ce que disait Pierre Deveau tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en France, ce sont les littérateurs qui font de la science-fiction, alors qu'aux États-Unis, je crois que les auteurs de science-fiction sont avant tout des scientifiques. Jacques Bergier.
Oui, alors aux États-Unis et surtout en Angleterre, les auteurs de science-fiction sont des scientifiques ou des philosophes scientifiques. On peut citer parmi les auteurs de science-fiction anglais Bertrand Russell, avec Satan dans les faubourgs et cauchemars de personnes imminentes, Gray Voltaire, le grand cybernéticien, avec Pronostic réservé, Fred Hoyle, l'astronome, avec les nuages noirs, J.B.S. Alden, le biologiste, avec les mondes possibles, A.J. Muller, le biologiste, Eric Tempelbel, le mathématicien.
Il y a, je crois, une question intéressante à se poser, c'est à quels auteurs, à quels savants plutôt, se réfèrent les auteurs de science-fiction, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie, Jacques Bergier.
Aux États-Unis, c'est surtout au groupe de savants à l'Institut de technologie de Massachusetts comme Schwinger et Feynman et à l'Institut de Californie comme Alvarez que se réfèrent les auteurs de science-fiction. Ils viennent régulièrement dans les instituts, discutent avec les savants, fréquemment ils travaillent. À l'Est, par contre, la grande source d'idées de science-fiction, c'est l'Institut de physique nucléaire et de cosmologie de Varsovie, qui est dirigé par Leonard Infeld, qui travaillait avec Einstein et qui écrivait avec Einstein un livre classique sur la physique. Et un certain nombre d'auteurs, comme par exemple Stanislas Lem, qui est un auteur polonais de science-fiction extrêmement brillant, gravitent autour de l'Institut. Et c'est ça la grande source d'idées pour les auteurs.
Mais quels sont les grands problèmes scientifiques qu'ils abordent ?
Les grands problèmes scientifiques qu'ils abordent, c'est d'abord celui de la réalité du monde mathématique. Est-ce que les mathématiciens découvrent ou est-ce que les mathématiciens inventent ? Autrement dit, les entités du monde mathématique existent-elles ailleurs dans un univers à plusieurs dimensions ou bien sont-elles des vues de l'esprit ? Ça, c'est un problème qui domine pratiquement toute la science-fiction moderne.
Oui, il est certain que l'homme se trouve placé également devant cette réalité effarante, c'est que la réalité n'existe pas. C'est une trouvaille d'aujourd'hui que nos grands-pères n'auraient pas pu imaginer. C'est que rien n'existe, tout est uniquement tourbillon de force et d'énergie, n'est-ce pas ? Et la matière base de cet immense matérialisme qui est en train de bouleverser notre monde, la matière n'existe pas.
Pierre Deveau ?
Oui, Barjavel a tout à fait raison. Ces problèmes se posaient autrefois aux philosophes, et aux philosophes seulement. Au Moyen-Âge, par exemple, c'était la querelle célèbre des universaux. Et il y a une cinquantaine d'années, c'était également des problèmes de philosophie, mais aujourd'hui, ils s'imposent à tout le monde. Et voyez quelles sont les répercussions immédiates dans la pensée de tous. Simplement d'une nouvelle découverte. Ces jours-ci, elle a publié l'équation de Heisenberg, l'équation du champ unitaire. Eh bien, cela a fait certainement du bruit dans le public. Les quotidiens l'ont annoncé, tandis qu'il y a 50 ans, ce serait resté l'apanage de quelques spécialistes. Eh bien, ce nom de Heisenberg est révélateur. Heisenberg, vers 1930, a émis son fameux principe d'incertitude, ces relations d'incertitude qui nous apprennent quoi ? Que nous ne connaîtrons jamais simultanément l'emplacement exact et la vitesse exacte d'une particule. Ceci peut sembler bien particulier, mais le monde entier est formé de particules, et un homme comme Laplace, c'est-à-dire un grand représentant de l'intelligence d'autrefois, disait « Si nous pouvions connaître à un instant donné la position et la vitesse de toutes les particules concernant le monde, nous pourrions calculer la suite des états indéfinis du monde, c'est-à-dire, en somme, prédire l'avenir, grâce aux mathématiques. » Eh bien, cette idée aujourd'hui n'est plus la nôtre. Nous nous trouvons devant l'inconnu, un inconnu qui est peut-être l'inconnaissable, devant un monde incertain.
Mais quand un auteur de science-fiction développe une de ses idées, ne fait-il pas auprès du savant figure de parent pauvre et n'est-il pas un petit peu le métaphysicien d'autrefois ?
Non, il est fréquemment savant lui-même. Eric Tempelbel, par exemple, qui est professeur de mathématiques et chef de la section mathématique de l'Institut de technologie de Californie et qui est en même temps un des grands savants actuels, et bien parle à voix haute. Et ils cherchent dans la science-fiction un moyen d'exprimer des idées qu'ils ne pourraient pas exprimer autrement. La science-fiction devient de plus en plus la conscience du monde savant, l'idée qu'on y retrouve de plus en plus, l'idée qu'il y a quelque part des grands juges, des grands galactiques, comme disent les auteurs de science-fiction, qui viendront un jour nous juger. Il y a une nouvelle étonnante de Norbert Wiener, le père de la cybernétique, où on voit arriver les grands galactiques, où nous sommes jugés pour Bergen-Belsen et Hiroshima.
Mais à ce moment-là, ne pourrait-on pas dire au contraire que la science-fiction est une sorte d'enfantillage, de passe-temps des savants ? Robert Canters.
Il y a peut-être un peu de ça. J'aurais voulu dire aussi qu'il y a peut-être d'autres problèmes que les problèmes physiques qui sont abordés couramment dans la science-fiction d'aujourd'hui en relation avec les recherches scientifiques. Ce serait par exemple le thème des mutants qui est un thème courant à la suite. À la suite des recherches...
Était, les romans qui sont suivis ou traduits là-dessus sont parus il y a 20 ans.
Oui, enfin, on en trouve encore couramment dans fiction ou dans des collections qui paraissent en France.
Fiction est terriblement en retard, mais enfin, c'est un thème bien oublié dans la science-fiction étrangère.
Je ne sais pas s'il est aussi oublié que vous le dites, s'il n'y en a pas encore. Soit le thème de la transformation biologique de l'homme qui devient un surhomme, ce qui est encore en effet une sorte d'enfantillage, soit le thème de la race animale ou de la race végétale qui devient une race conquérante et envahissante. De même, il y a peut-être à la suite de, si on peut appeler ça une science, des romans de science-fiction qui exploitent les pouvoirs inconnus de la pensée, la parapsychologie, qui prolongent les recherches de la parapsychologie. Maintenant, quel univers est-ce que cela donne? Je pensais au roman de Brown que vous avez sans doute tous lu, L'univers en folie, où il y a tout d'un coup un personnage qui se trouve transporté dans un univers différent du nôtre par un choc qu'il a mis dans des univers parallèles. Cet univers est d'une incroyable puérilité, d'un comique et d'une sottise extraordinaire. On découvre à la fin ce qu'il est. C'est l'univers tel qu'il existe dans la tête d'un lecteur de science-fiction.
il y a un problème qui revient périodiquement. Chez les auteurs de science-fiction, mais sous des formes différentes, c'est le problème du voyage à travers le temps. Wells, je crois, a commencé. Il y a eu plusieurs romans successifs, en particulier le Chronastro de mon ami Henri Viau. Eh bien, tantôt on transporte les gens dans l'avenir, et alors nous tombons dans la science-fiction pure, et tantôt on les ramène dans le passé, et alors il y a toutes sortes de problèmes. Par exemple, quelle peut être leur action? Est-ce qu'ils peuvent réellement aller arrêter le bras de Ravaillac au moment où il va assassiner Henri IV? Est-ce qu'ils peuvent sauver Marie-Antoinette au moment où elle va monter à la guillotine? Là, évidemment, nous sortons un peu de la science proprement dite.
Je crois qu'il y a une très jolie nouvelle de Bradbury où on voit un monsieur prendre la machine à explorer le temps et s'en aller au lendemain d'élections politiques très importantes. Quelqu'un vient d'être élu, c'est le bon candidat, il va prendre ses vacances dans le passé. Malheureusement, imprudemment, il descend de la machine, il tombe un instant, il marche sur le sol de cette époque-là, il reprend la machine en se demandant ce qui va arriver, il arrive dans notre époque et, bien entendu, l'élection n'a plus le même résultat. Pourquoi ? Parce qu'il avait écrasé un papillon il y a 100 000 ans.
Mais Anderson avait prévu une patrouille du temps qui, justement, évitait de tels égarements. Jacques Bergier.
En fait, il y a depuis 3 mois au Bureau of Standards aux États-Unis un projet de recherche sur l'exploration du temps, ou plus exactement sur le recul dans le temps des microparticules, notamment des noyaux de manganèse rendus radioactifs. Ce qui prouve que même sur ce point-là, la science-fiction a été rattrapée. Et déjà, le physicien américain Feynman, qui est un des grands physiciens actuels, avait publié dès 1952 une théorie où il montrait que le positron n'est pas autre chose qu'un électron reculant dans le temps.
Il y a un phénomène nouveau, c'est que maintenant, on prend les auteurs de science-fiction très au sérieux et ils ont même un rôle politique.
Oui, c'est le cas en particulier de James Killian, qui était un des grands fanatiques aux États-Unis de la science-fiction critique et amateur, qui a créé à l'Institut de technologie de Massachusetts l'enseignement pour la science-fiction et qui vient d'être nommé aux États-Unis dictateur à la science, parce qu'il était amateur de science-fiction, justement.
Parce qu'il a de l'imagination, n'est-ce pas? C'est ce qui manque le plus.
Est-ce que pour mettre un nom de plus, par exemple, dans la littérature de science-fiction, on accorde généralement une grande place à Bradbury? Souvent, on dit que c'est un des meilleurs écrivains de science-fiction d'aujourd'hui, et je crois que c'est un esprit résolument non scientifique. C'est-à-dire que l'invention scientifique tient très peu de place. C'est l'imagerie poétique, la création de mythes, et la philosophie, ou disons l'implication morale, la vue sur le destin des sociétés, qui tient le plus de place là, et j'ai l'impression que c'est cependant un auteur plus estimé que la plupart des honorés savants dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que la science-fiction des savants, ce n'est pas simplement la conversation des savants le soir après dîner, un petit peu prolongée, un petit peu mise en forme, tandis que la science-fiction de Bradbury, la science-fiction du Curtis en France ou d'autres écrivains, ne serait pas une forme, disons, de l'imagination morale ou de l'imagination poétique, où la science, au fond, n'a rien à voir, ou peu.
Pierre Devaux.
Nous pourrions peut-être prendre le problème de l'autre côté. Et là, mon cher Canters, vous pourriez peut-être répondre d'une façon tout à fait pertinente et professionnelle. Au fond, que demande le public, l'auteur de science-fiction ? Est-ce que tout le monde lui demande à peu près la même chose ? Ou bien est-ce que c'est une couleur simplement qui lui permet de renouveler un récit policier ou un récit d'amour ? Est-ce que vraiment il cherche le renseignement scientifique là-dedans ? Et le public est-il qualifié pour poser une question pareille ?
Je n'en suis pas persuadé. Je ne crois pas qu'il cherche le renseignement scientifique. Je crois que, de même que la science peut venir de la magie, la littérature de science-fiction est une forme dégradée de la littérature fantastique. À une époque de croyance magique correspond une littérature fantastique à une époque où la magie diminue, perd de ses pouvoirs, perd de ses prestiges sur le plan proprement technique et pratique, c'est la science qui la remplace, vient un fantastique de la science qui est la littérature de science-fiction.
Oui, oui.
Et c'est une forme réservée, une forme inférieure de la littérature fantastique. Et au fond, comme il reste toujours une aspiration magique ou une aspiration au fantastique, c'est cette aspiration-là que le lecteur satisfait tant bien que mal avec les machines très savantes de la littérature d'anticipation.
Je proteste vivement contre le qualificatif de inférieur.
Oui, non, oui, évidemment.
Je disais aussi, la science inférieure à la magie, ne me prenez pas pour un magicien, c'est ça ?
Oui, oui, la magie, enfin, disons si vous voulez qu'il y a la différence qu'il y a entre la magie et la science, c'est que la magie reste toujours assez fumeuse pour qu'on n'y comprenne rien et que chacun puisse y mettre toutes les aspirations qu'il veut, tandis que la science oblige l'homme à ouvrir les yeux et à se poser des questions claires et précises, n'est-ce pas ?
C'est bien dur pour la magie, qui a rendu beaucoup de services à l'humanité. Il y avait un livre de Fraser, je crois, sur les progrès que nous devions à la magie, la tâche de Psyché.
Oui, mais alors disons...
La magie est empirique, n'est-ce pas ? C'est tout ce que l'on peut lui reprocher.
Elle est empirique et au fond, elle est efficace.
Mmh. Oui.
Je crois, messieurs, que nous débordons un peu dans les frontières du décor.
Non, je ne crois pas, et je me demande s'il n'y a pas un peu un côté magique, justement, dans la science-fiction, parce que certains auteurs semblent avoir une prescience de ce qui allait se passer. On a beaucoup parlé du côté prophétique de Jules Verne, mais le cas est encore plus curieux avec Swift, n'est-ce pas, Jacques Bergier ?
Oui, à vrai dire, il y a deux aspects du prophétisme dans la science-fiction. Il y a le prophétisme logique, comme par exemple Cliff Cartmill, qui a inventé la bombe atomique et qui l'a décrite dans un numéro de magazine en mars 1944, ce qui a causé d'ailleurs au magazine et à tout le monde les pires ennuis. Et puis, il y a le prophétisme proprement dit, comme par exemple Swift, qui prévoit les deux lunes de Mars, leur période de rotation et de révolution, leur distance à la planète mère avec une telle précision que lorsque l'astronome Asaph Hall les découvre en 1877, il les appellera Phobos ou Deimos, peur ou terreur. Ou bien encore, l'écrivain anglais Matthew Philip Shill, qui en 1897 écrit une nouvelle de science-fiction sociologique sur une révolution en Europe mettant au pouvoir des criminels monstrueux, massacrant par famille entière des gens qu'ils estiment nuisibles au progrès humain, et la nouvelle, parue en 1897, paraît sous le titre « Les SS ».
C'est curieux, oui.
Je me demande s'il n'y a pas aussi un côté... intéressant pour un auteur de science-fiction, par exemple chez les Martiens, enfin pour prendre des gens d'une autre planète, est-ce que il n'est pas intéressant pour un auteur de se servir des Martiens comme au grand siècle on se servait des Perses, Barjavel ?
Ah, c'est certain, il y a le côté, ça c'est le côté roman philosophique de la science-fiction.
Oui, justement,
si vous voulez.
Et qui est assez proche de Bradbury.
C'est ça.
À l'époque des Perses de Montesquieu, c'est Micromégas.
Comment peut-on être persan ?
C'est ça, non, mais à l'époque c'était une nécessité, est-ce que ça l'est aujourd'hui ?
Mais rendez-vous compte, si nous remettons les choses à l'échelle d'aujourd'hui, enfin, nous sommes aujourd'hui dans la situation où était Christophe Colomb avant son voyage vers les Indes, n'est-ce pas ? Avec à cette différence près que l'homme qui va s'envoler vers la Lune saura à peu près où il va mettre les pieds, alors que Christophe Colomb ne savait pas du tout où il allait. Et que les marins de sa caravelle s'imaginaient qu'ils allaient tomber dans des gouffres, qu'ils allaient vers des choses horribles et abominables, tandis que nous avons photographié la Lune kilomètre carré par kilomètre carré, et que nous connaissons au moins le visage de ce qui nous attend.
Oui, pas tout à fait. Je sais bien qu'on étudie l'aspect nocif des rayons cosmiques avant de s'aventurer dans l'espace, mais malgré tout, la personne qui débarquera pour la première fois dans Mars ne saura pas du tout qui elle va trouver. Est-ce que ce sera des êtres supérieurs ou pas ?
Je crois que les craintes qu'on peut avoir font partie absolument de ces terreurs invraisemblables et non justifiées qui agitaient les matelots de Christophe Colomb. Ce que nous trouverons sera forcément du cadre humain et de l'échelle humaine, parce que nous sommes dans un univers dont nous faisons partie, et toutes les imaginations des auteurs fantastiques de la science-fiction qui créent des monstres et des horreurs un peu dans tous les coins ressortent de ces terreurs superstitieuses et n'ont absolument rien de vraisemblable. Nous trouverons des choses inhabituelles, nous trouverons sans doute des choses différentes, mais auxquelles nous nous adopterons très vite, de même que lorsqu'on a découvert le kangourou en Australie, n'est-ce pas ? C'était une chose fantastique, un kangourou, un animal qui sautait sur ses pattes de derrière et qui avait une poche dans le ventre. Mais c'est devenu un animal familier. C'est dans cet ordre-là qu'on découvrira des choses différentes dans l'univers qui est à notre portée, tout au moins.
Qui est constitué par les mêmes matériaux. Pas l'homogénéité du système.
Les mêmes matériaux et les mêmes lois, n'est-ce pas ?
Oui.
Au fond, le premier récit de voyage dans la Lune ou dans la planète Mars ne sera pas beaucoup plus intéressant que la biographie du monsieur qui est resté pendant 8 jours enfermé dans une boîte il y a quelque temps aux États-Unis.
Très exactement.
Ce n'est pas certain. Déjà, le premier Spoutnik a apporté des phénomènes absolument inconnus et qu'on essaie en ce moment d'analyser. Il est probable que les surprises les plus étonnantes nous attendent. En particulier, il est tout à fait possible que dès que nous sortirons de notre atmosphère, nous serons déjà en mesure de capter des signaux provenant d'autres intelligences. On le croit de plus en plus. Le professeur Otto Struve, qui est un des astronomes américains les plus éminents, a annoncé la semaine dernière que la science est sur le point de pouvoir distinguer entre les étoiles qui explosent naturellement et celles dont l'explosion est causée par des actions intelligentes. Ce qui prouverait, si Struve a raison et s'il peut démontrer ce qu'il dit, qu'il existe dans l'univers des puissances qui nous sont tout aussi supérieures que nous-mêmes aux fourmis ou aux insectes.
Est-ce que c'est une supériorité de faire éclater son étoile ?
Ah, il faut
matériel au moins.
Une longue carrière intellectuelle derrière.
Matériel au moins.
Sans aller si loin, vous savez comme moi qu'il y a une planète, la transmartienne, le numéro 28 de la classification de Bode, qui existait entre Mars et Jupiter et qui a fait explosion. Elle a donné naissance à toutes ces petites planètes que nous appelons Cérès, Pallas, Vesta, dont plusieurs sont notablement plus petites que Paris. Eh bien, comment a éclaté cette planète, nous ne le savons pas trop. Y avait-il là-haut des physiciens qui s'amusaient de trop près avec l'atome ? Peut-être, mais enfin, c'est une planète qui a éclaté. Et nous pourrions dire, en paraphrasant à peine Paul Valéry, nous savons maintenant, planète, à quel point vous êtes mortel.
C'est ce que croyait Claude Farrer, qui a consacré à la mort de cette planète une très belle nouvelle dans son recueil L'autre côté.
Jacques Bergier, quand vous disiez tout à l'heure que nous trouverons sans doute des intelligences supérieures à la nôtre, c'est certain. Je ne crois pas que l'intelligence humaine soit le sommet de la perfection. Mais je crois qu'il y a chez l'homme un phénomène qui est unique sur la Terre, dont on peut penser qu'il est unique dans l'univers. C'est le phénomène de la conscience. On peut imaginer effectivement des facultés différentes, on peut imaginer des êtres intelligents ayant 36 ou 50 ou 10 000 sens au lieu d'en avoir 5, on peut imaginer qu'ils soient télépathes, on peut imaginer des tas de choses, qu'ils aient une civilisation extraordinairement avancée, mais ce phénomène de la réflexion, de la conscience, qui fait que l'homme dans l'univers que nous connaissons, celui de la Terre, est tellement différent, je ne dirais pas supérieur, mais différent du reste de ce qui est vivant, je crois que ce phénomène est tellement particulier que je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir au-dessus. Vous me direz que je ne le vois pas parce que je suis un homme, justement. Mais enfin, ça m'amène à adopter cette vision réconfortante, si vous voulez, peut-être un peu optimiste. C'est que ce phénomène particulier de la conscience, de la réflexion, il y a peut-être une possibilité pour qu'il soit unique. Pour qu'il soit unique non seulement sur la Terre que nous connaissons, mais peut-être même dans notre univers. Et que cette aventure qui commence d'une façon si extraordinaire, enfin, l'homme actuellement est comme un enfant qui vient de jeter hors de son berceau son premier jouet, le Spoutnik, n'est-ce pas ? Puis bientôt, à son tour, il va mettre le pied hors de son berceau, il va marcher vers les étoiles. Et peut-être que c'est là une chose voulue par Dieu, si nous voulons prononcer ce nom, et que l'homme, effectivement, est un être unique à qui l'univers est donné. C'est un point de vue qui m'est personnel, peut-être, mais enfin, je me plais à caresser ce rêve.
Oui, la plupart des auteurs de science-fiction américains ont une autre idée, à savoir qu'il y a dans l'univers des intelligences qui nous sont supérieures en morale comme en technique, et que si ces intelligences ne prennent pas contact avec nous, c'est que ce contact lui-même nous détruirait comme complexe d'infériorité et qu'ils le savent.
Oui, parce que les Américains viennent à peine de découvrir la psychanalyse et maintenant ils en ont jusqu'aux yeux. Ils s'imaginent qu'un complexe d'infériorité peut détruire une...
Il a détruit les négritos d'Australie.
Oui, écoutez, je crois que l'humanité s'en nourrit, au contraire, qu'elle est loin de s'en détruire.
Maintenant, Barjavel, cette notion de conscience dont vous nous parlez, le mot conscience a de sens en français. Vous ne parlez pas de conscience morale.
Conscience morale, je veux dire prise de conscience.
Prise de conscience, se percevoir soi-même.
Se percevoir soi-même. C'est pourquoi j'ajoutais réflexion.
Je voudrais vous croire, penser que nous sommes appelés à un destin exceptionnel. Nous avons besoin de cela pour vivre. Mais est-ce que les animaux, tout simplement, n'ont pas une conscience d'eux-mêmes? Est-ce qu'un chien, une tête de bétail, n'a pas conscience?
Ils n'ont pas la parole, en tout cas.
Je ne pense pas qu'il ait ce que j'appelle cette conscience humaine, n'est-ce pas? De même, si vous voulez, que je crois que l'homme est le seul sur la Terre à être responsable, à connaître la responsabilité du problème du bien et du mal.
Oui.
N'est-ce pas? Pour la bête, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal.
Il y a des sages, comme Wells le montre dans l'île du docteur Moreau.
L'homme peut faire le mal, pourquoi? Parce qu'il le sait, c'est tout. S'il ne savait pas qu'il fait le mal, il ne ferait pas le mal, parce que ce qu'il ferait ne serait pas mal. C'est pas ? Ce phénomène de la conscience est une chose absolument unique dans le monde de la vie que nous connaissons. Prenez un animal, aussi intelligent soit-il, aussi éduqué soit-il, il n'a pas ce retour sur soi-même, cette réflexion, cette conscience, je ne vois pas d'autre mot. Et c'est un phénomène tellement particulier que... j'imagine qu'il peut être unique dans l'univers.
Eh bien, je crois qu'on a tort de penser, quelquefois, que la science-fiction est une forme inférieure de la littérature et même de la pensée, puisqu'elle nous conduit presque obligatoirement à des réflexions pareilles.
Ah, mais je crois que moi, la science-fiction, je vous disais tout à l'heure, peut partir du roman feuilleton, mais elle peut aboutir à la métaphysique, c'est tout à fait...
Ça soulève les plus grands problèmes humains, en somme.
Oui, mais je crois qu'avec les progrès scientifiques actuels, elle risque de rencontrer là un nouveau danger, c'est celui d'être confronté avec la réalité. Et lorsqu'un auteur décrit en imagination ce qu'il peut voir sur Mars, il se peut que d'ici 20 ans, il soit entièrement contredit. Et n'est-ce pas là un danger, puisqu'il faut tout de même une sorte de pérennité en art?
Oui, c'est évident. Et il est certain qu'actuellement, même la science va plus vite que l'imagination des écrivains de science-fiction, en ce sens que nous marchons toujours dans les mêmes pas, n'est-ce pas ?
Robert Canter.
Pourtant, sur un point précis que nous avons sous les yeux, il y avait un certain nombre de romans dont le thème était le lancement du premier satellite artificiel, et j'ai l'impression que la presque totalité de ces romans sont tombés et sont dépourvus de tout intérêt aujourd'hui, parce qu'il y a un satellite artificiel qui tourne autour de la tête, et même deux qui tournent autour de la Terre pour le moment.
Ces romans datent de 1863.
Non, les romans récents qui parlaient du lancement de satellites artificiels, il y a une grande quantité de romans américains des dernières années qui racontaient l'histoire du satellite, l'histoire de la préparation du satellite. Il y a même eu un film ou l'autre sur ces satellites artificiels. Ils nous paraissent aujourd'hui dépourvus de toute espèce d'intérêt, parce que ça ne s'est pas passé comme ça, et au fond, nous ne savons pas encore grand-chose sur ces satellites qui tournent autour de nous. Je me demande alors si la science-fiction, qui garde une valeur de pérennité, pour faire plaisir à notre ami Yuri, ce n'est pas la science-fiction qui n'est pas scientifique.
Barjavel ?
Il est certain que le premier reportage du premier journaliste ou du premier homme qui mettra le pied sur la Lune rendra caduque tout ce qui a été écrit sur la Lune, y compris l'admirable roman de Wells, n'est-ce pas, que je trouve merveilleux, mais qui est du domaine...
de votre roman. Mais si les gens prennent pied sur la Lune, ils descendent dans une cité souterraine et ils trouvent quoi? Des anthropophages.
Mais c'est fort possible, pourquoi pas? Après tout, écoutez, dans le journal d'un homme simple, j'ai mettais enfin la première hypothèse logique sur la formation des cirques lunaires. Je disais ceci.
Vous avez trouvé la solution.
Ces cirques lunaires sont des déblais, n'est-ce pas? Comment expliquez-vous ça autrement? C'est une civilisation qui s'est enterrée, qui a fait des trous et qui a mis les déblais autour. Pourquoi pas? Effectivement, il est tout à fait logique de penser que s'il y a eu la vie sur la Lune, un jour ou l'autre, elle s'est enterrée, parce que la vie est devenue impossible à la surface, et s'il y a eu des êtres intelligents, ils se sont enterrés.
En luné.
Donc, les hypothèses de Wells étaient tout à fait logiques et scientifiques. Mais il n'empêche que rien ne vaudra le fait du monsieur qui dira « J'arrive sur la Lune, il est à l'heure, il y a de la poussière, il fait beau, il fait chaud, etc. » Vous comprenez? Rien ne vaut, évidemment, la réalité dans ce domaine-là. C'est pourquoi je suis d'accord avec Canters, je crois que la grande science-fiction, c'est celle qui n'est pas scientifique, c'est celle qui fait appel aux poètes, aux véritables créateurs littéraires, et je crois que, même scientifiquement, elle est peut-être plus valable que l'autre.
Certainement, même scientifiquement.
Oui.
Pour conclure, je voudrais vous demander, Barjavel, ce qui vous a amené à être un auteur de science-fiction.
Ça, c'est bien difficile. Disons, si vous voulez, que quand j'étais un jeune garçon, j'ai lu Wells et Jules Verne, mais surtout Wells, avec passion. Lorsque j'ai eu envie d'écrire, j'ai eu, comme tout le monde, envie d'écrire un roman d'amour, mais je l'ai laissé de côté parce que je ne me sentais pas encore bien capable de me séparer de mes propres souvenirs, et que je me suis surtout senti le besoin de m'évader des petits problèmes psychologiques romanesques qui me barbent. Enfin, en tant que lecteur, d'abord, je ne peux plus lire un roman dit psychologique. Aujourd'hui, d'ailleurs, ces romans psychologiques sont uniquement physiologiques, par-dessus le marché, n'est-ce pas? Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Faisons l'amour, mais n'en parlons pas. Et il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves, enfin, des problèmes immenses qui se posent aujourd'hui aux hommes. Eh bien, moi, en tant qu'écrivain, j'estime que je dois essayer d'examiner ces problèmes. Voilà.
Et vous pensez que la science-fiction est pour vous un moyen, justement, de les examiner?
Certainement. Maladroit, on est mal armé, puisqu'on se trouve devant l'inconnu. Cet inconnu est immense. Nous avons comme arme comme notre imagination et notre esprit logique. Nous faisons ce que nous pouvons, et aux hommes d'en faire autant, n'est-ce pas?
Le conte terrible de René Barjavel, écrit depuis plus de 10 ans, que nous allons entendre, relève fort heureusement de la fable. Mais toute la littérature de science-fiction ne relève-t-elle pas de la fable? Fable scientifique, à la mesure de notre siècle, mythologie, ou Chronos, Zeus ou Mars, pour s'appeler, avec des majuscules, le temps, l'espace ou la guerre, continuent à se défendre contre notre race de titans enfin victorieuse. Voici les rescapés du B-312.
Il existe dans les familles des affinités héréditaires pour certains métiers. Valentin Durafour, dont le père avait conduit des autobus dans Paris, poursuivait à peu près le même travail. Pilote à la STCNP, Société de Transport en Commun New York-Paris, il couvrait régulièrement ses 10 allers-retours par jour et espérait arriver sans histoire à l'heure de la retraite. C'était un métier de tourpeau. En vérité, le pilote n'était guère plus qu'un figurant. Le contrôleur, lui, assumait des responsabilités et abattait de la besogne, oui. Avec sa petite boîte sur le ventre, il devait demander à chaque voyageur son ticket et l'oblitérer dans un bruit de crécelle. Aux heures d'affluence, à la sortie des bureaux et des ateliers, quand les travailleurs parisiens regagnaient leur pavillon de la banlieue de New York, il préférait habiter l'Amérique, c'était toujours plus confortable. Ce n'était pas une sinécure de s'acquitter de ce travail, surtout en deuxième classe avec tous ces gens debout entre les sièges qui se marchaient sur les pieds. Pendant ce temps, le pilote demeurait bien tranquillement assis dans sa petite cabine. Au coup de sonnette du contrôleur, il appuyait sur le bouton qui bloquait les portes étanches, puis il embrayait. Après, en somme, il n'avait plus à s'occuper de rien. Le stratobus démarrait doucement, pas plus de 2000 à l'heure au-dessus de Paris, sortait des couches basses de l'atmosphère, prenait alors toute sa vitesse sous l'effet de ses moteurs à réaction, et arrivait en vue des côtes américaines en moins d'une demi-heure. Du départ à l'arrivée, en vol et atterrissage compris, il était conduit, contrôlé, surveillé, couvé, pourrait-on dire, par des appareils automatiques de bord en liaison avec des appareils à terre. Il ne pouvait pas plus s'écarter de sa route que le métro de Sérail. Le seul inconvénient du métier de pilote, c'était qu'il s'ennuyait. Valentin Durafour, lui, pour passer le temps, tricotait des layettes en nylon mousseux, inusable. Ça le distrayait si au-dessus des nuages, et ça lui faisait un petit supplément de revenus. Il y avait longtemps que les compagnies américaines avaient supprimé ces employés inutiles à bord de leurs appareils, mais en France, on continuait d'être, comme toujours, un peu en retard. Les Français, si facilement héroïques, quand il s'agit de donner leur vie pour rien, tiennent à ce qu'on veille sur elles quand ils paient. Et il s'imaginait puérilement être plus en sécurité avec un pilote qui ne servait à rien que sans pilote. C'était une douce survivance de l'esprit petit bourgeois. Comme nous allons le voir, ce fut pourtant à cet attachement aux usages du passé que le monde dut d'être sauvé, sinon de la destruction totale, tout au moins de la barbarie définitive. Ce matin-là, donc, Valentin Durafour et son bus, descendant à vitesse réduite vers New York, s'apprêtaient à atterrir. Il n'était plus qu'à 16 000 mètres d'altitude et les voyageurs placés près des fenêtres, heureux de revoir la terre, regardaient monter vers eux le damier de la ville, quand, tout à coup, New York se souleva, s'embrasa, fleurit en une gigantesque fleur sphérique de flammes et de fumée, qui se mit à pousser à une vitesse vertigineuse vers le soleil. L'éclair de lumière avait été si intense que lorsque le pilote et les voyageurs, après avoir fermé les yeux par réflexe de défense, les rouvrirent, ils ne virent plus qu'un essaim de papillons noirs voltant devant leur rétine violentée. Tous avaient compris. Tous. C'était une explosion atomique. Guerre ou accident? Chacun espérait accident et tout le monde craignait guerre. Il n'y eut aucune panique. Le cas était prévu, bien qu'il ne se fût jamais produit. Si les appareils au sol venaient à cesser de fonctionner, le stratobus reprenait automatiquement de la vitesse et de l'altitude et se mettait à tourner en rond à 30 000 mètres jusqu'à ce qu'il fût de nouveau happé par le contrôle. Valentin Durafour n'eut même pas à intervenir. Son véhicule, qui portait le numéro B312, releva le nez et monta à la vitesse d'une comète vers l'azur, échappant de justesse au singulier bourgeonnement qui venait de réduire l'immense cité à un simple mélange de ciment pulvérisé, de chair vaporisée, de débris cuits et tire-bouchonnés. Si rapides que fussent ses réflexes, jamais le pilote n'aurait pu changer de cap aussi vite, et le véhicule et ses passagers, quelques dixièmes de seconde plus tard, seraient entrés tout droit dans l'enfer. L'automatisme immédiat de la machine avait été leur salut. Le B312 se mit donc à décrire un immense cercle, à 30 kilomètres d'altitude et de là-haut, car le temps était clair. Les passagers purent se convaincre qu'il s'agissait bien de la guerre et non d'un accident. Ils virent en effet s'élever sur tous les horizons d'autres champignons incandescents qui tournoyaient sur eux-mêmes, découvraient leur cœur de flammes blanches, se gonflaient et s'épanouissaient en parasols de fumée et de poussière. Valentin Durafour décrocha le téléphone et, pour acquis de conscience, mais sans espoir, appela New York. Il ne restait de New York qu'un nuage que le vent commençait à effilocher. Et New York, bien entendu, ne pouvait pas répondre. Alors le pilote, le cœur serré d'angoisse, appela Paris. Et Paris, puis Londres, Moscou, Berlin, Nankin, Sydney. Restèrent silencieux. Il appela 20 autres villes. Il obtenait d'habitude la communication en quelques secondes, le temps de faire le numéro sur son cadran. Aucune ville ne répondit. Derrière lui, penché sur lui, le contrôleur Blême, une main sur la boîte accrochée à son ventre, l'autre appuyée sur le dossier du siège de pilotage, tendait l'oreille, essayait d'écouter la réponse qui ne venait pas. Il répétait de temps en temps deux mots entre ses dents, deux mots qui disait tout ce qu'il éprouvait. « Mes gosses, mes gosses. » Qui avait commencé la guerre? Aucun des survivants de la catastrophe ne le sut jamais, ni même ne le supposa, tant la vérité était peu facile à deviner. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis qui avaient essayé la bombe atomique sur le Japon continuèrent d'en fabriquer. On pouvait craindre que ces bombes servissent un jour à autre chose que la chasse aux petits oiseaux. Aussi la Russie, puis d'autres nations, se mirent à chercher le secret de sa fabrication et le découvrirent. Ce fut bientôt le secret de Polichinelle, et les bombes s'entassèrent pendant que les délégués des nations à l'ONU proclamaient, d'ailleurs avec sincérité, leur amour de la paix. Les hommes n'étaient plus maîtres de leur destin. Chaque nation avait peur des autres, peur d'être attaquée la première, peur de ne pas pouvoir répondre, et fabriquer les petites bombes. Les procédés de projection des bombes par fusée à réaction et de guidage par radar furent mis au point sans difficulté et les spécialistes de tous les pays du monde installèrent les fusées sur leurs affûts prêtes à partir, chacune réglée d'avance, pointée vers un objectif précis qu'elle ne pouvait manquer. Un système de déclenchement automatique y fut ajouté. Le premier projectile qui approcherait d'un territoire armé provoquerait le départ immédiat des projectiles adverses. Ainsi, une nation qui prendrait la responsabilité de commencer la guerre subirait aussitôt la riposte, même si son bombardement détruisait tout chez l'ennemi, car celui-ci, avant de disparaître, aurait vu s'envoler ses propres engins de mort. La fabrication des explosifs atomiques avait été si perfectionnée, si amplifiée, et pris une telle cadence qu'il n'était pas une ville des grandes nations, pas une de leurs agglomérations un peu importantes vers qui ne fut braquée une de ces torpilles. L'effroyable menace qui pesait sur l'humanité faillit provoquer une folie générale. Au cours d'une séance mémorable du Conseil de l'ONU, un accord intervint enfin. Certes, il ne s'agissait pas de désarmer, il eût fallu pour cela que quelqu'un commençât, acceptât cette humiliation et ce risque. Il n'en était pas question. Mais chacune des grandes nations se résigna à laisser garder ses batteries de départ par des représentants des autres nations. L'échange des surveillances se fit simultanément. Ils arrivèrent ensemble à leur poste à la seconde S de la minute M de leur H du jour J. Ainsi, personne ne perdit la face. Ce fut la naissance du CIV, Corps international des veilleurs. Désormais, auprès de chaque rampe de départ, des gardiens des cinq principales puissances se relayèrent, veillant à ce que nul jamais ne fit partir le premier des engins infernaux. C'était une solution absurde. Mais les hommes communs qui cherchent humblement et simplement à vivre trouvèrent que c'était déjà très beau. Ils commencèrent à respirer, à sourire. Ils imaginèrent que peut-être un jour les gens sérieux qui mènent le monde et qui savent les choses se mettraient enfin d'accord pour détruire ces monstres au lieu de les surveiller. La joie succéda à l'angoisse, enfla, devint délirante. On dansa, on chanta, on se jeta dans les plaisirs avec une avidité qui masquait la survivance d'une peur qu'on préférait écraser sous les rires plutôt que l'avouer. Chacun au fond de soi conservait cette pensée de stupide bon sens. Tant que les bombes existent, elles peuvent servir. Ce fut bien en effet ce qui arriva. Il existait une petite nation très pauvre au sein des montagnes qui était neutre depuis toujours, qui n'avait jamais fait la guerre à personne, qui ne fabriquait que des jouets en bois, qui ne possédait aucune industrie, qu'on avait jugée si peu dangereuse, si misérable, si insignifiante, qu'elle ne faisait même pas partie de l'ONU. Or, il se trouva dans ce pays un homme assez fou. Pour croire que l'heure était venue pour sa patrie de dominer le monde, et assez exalté pour convaincre quelques-uns de ses compatriotes. Son plan était simple. Les procédés de fabrication de la bombe étaient connus, ils figuraient dans les manuels à l'usage du baccalauréat, on se procurerait facilement un peu de matière première, les chutes d'eau fourniraient l'énergie nécessaire, on ferait vite. Avant que le secret du complot ait pu transpirer, une seule fusée atomique, cela suffirait, partirait vers un objectif situé sur le territoire d'une des grandes puissances. Elle provoquerait le départ de toute la charmante artillerie braquée vers le zénith. Et les grandes nations s'étant mutuellement exterminées, il ne resterait plus au petit peuple montagnard, si longtemps et injustement confiné dans ses étroites frontières, qu'à s'établir sur les dépouilles des puissants, à s'y multiplier et à y prospérer. Une fois de plus donc, le monde se trouva à feu et à sang par la faute d'une petite nation. Mais cette fois-ci, c'était l'agneau qui était devenu loup. Les passagers du B-312, selon leur nationalité ou leurs opinions, accusèrent divers pays d'être à l'origine de la guerre. Des discussions puis des disputes s'élevèrent et il s'en fallut de peu que le Stratobus ne devint le théâtre d'un conflit général à l'image réduite de celui qui se déroulait à 30 kilomètres au-dessous de lui. Heureusement, le sentiment de la précarité de leur sort et de leur solidarité devant l'angoissant avenir qui les attendait calma l'humeur même des plus irascibles et un calme accablé régna bientôt à l'intérieur du véhicule. Il y avait de tout parmi les 300 personnes que le B-312 promenait au-dessus des nuages. Des commerçants, des ouvriers, des ménagères qui étaient partis faire une course en laissant le gaz allumé sous leur pot-au-feu, des employés, des étudiants. Et il y avait aussi le professeur Colliot-Jury, grand spécialiste de la physique atomique, qui allait faire son cours à l'université de New York avant de revenir déjeuner dans son appartement du boulevard Saint-Michel. Sa jeune autorité, le respect qui entourait son nom firent que les voyageurs, lorsqu'ils eurent connaissance de sa présence à bord, se tournèrent tout naturellement vers lui pour le charger de trouver une solution à leur sort. Le Stratobus, mû par des moteurs à réaction atomique, possédait près de 2 litres de carburant, c'est-à-dire de quoi tenir l'air indéfiniment. Mais s'il y avait de quoi alimenter les moteurs, il n'en était pas de même pour les passagers. Quelques sandwichs au buffet et une centaine de flacons de boissons diverses, c'était tout. Il fallait penser à revenir vers le sol, à atterrir. Mais où ? Le professeur Colliot-Jury s'installa près de Valentin Durafour. Celui-ci prit en main les commandes directes dont il ne s'était jamais servi, mais il connaissait bien la théorie de son métier, et c'était un homme adroit. Après quelques cabrioles, le B-312 s'arracha à son cercle automatique, prit la tangente et fila droit devant lui. Le Stratobus fit 7 fois le tour du globe, à la recherche d'un coin de paix. Les voyageurs entassés derrière les fenêtres ne virent qu'un immense nuage tourmenté creusé de gouffres noirs, agité de tempêtes, qui semblait couvrir le monde entier. Au-dessus de l'hémisphère plongé dans la nuit, ce nuage était parfois éclairé de lueurs pourpres ou violettes, ou illuminé par d'immenses éclairs. Des remous terribles secouaient l'appareil. Colliot-Jury, penché sur une carte, réfléchissait. Depuis quelques années, une expérience était en cours au nord du Groenland. On avait réchauffé une vaste région polaire au moyen de générateurs caloriques à des intégrations profondément enfoncées dans le sol à des endroits choisis. Sur ces étendues arrachées aux glaces éternelles, toutes les cultures des régions tempérées avaient été acclimatées et donnaient des primeurs d'une rare qualité qui profitaient à la fois d'un sol vierge et de l'éclairage rationnel qui remplaçait pendant 6 mois le soleil défaillant. Des paysans de toutes les nationalités, abandonnant les vieux continents épuisés, avaient émigré vers ces terres nouvelles, mais on ne s'était pas encore préoccupé d'extraire les richesses du sous-sol. Aucune industrie ne s'y était installée. Il demeurait quelque chance que ce coin du monde fût resté à peu près intact. Aucun des belligérants n'ayant sans doute songé à envoyer des bombes sur des champs de fraisiers ou des semis de petits pois. Il fallait tenter l'aventure. On n'avait d'ailleurs pas le choix. Valentin Durafour conduisit le B-312 au-dessus de la région indiquée, réduisit sa vitesse, perça le nuage de poussière qui s'étendait jusque-là et réussit à atterrir dans une plantation de canne à sucre déjà couchée au sol par un ouragan. La guerre n'avait pas duré plus d'une heure, mais les ravages provoqués par les bombes continuèrent longtemps après. Les nations civilisées étaient rasées, leur population anéantie. L'atmosphère bouleversée par les explosions réagit en effroyable tempête. Des cyclones brassèrent les ruines, des raz de marée submergèrent les côtes, la croûte terrestre secouée craqua, tous les anciens volcans rentrèrent en éruption et des nouveaux jaillirent dans les hautes montagnes, soulevèrent les plaines. L'Europe disparut en partie sous les eaux, l'Amérique fut coupée en deux, un continent surgit au milieu du Pacifique. Du petit royaume des montagnes qui avait provoqué le cataclysme, il ne restait rien qu'un éboulis sous lequel gisaient les coupables. Parmi ces rochers neufs et ces terres bouleversées, les cascades cherchaient en chantant leur nouveau chemin. Les passagers du B-312, qui vinrent rejoindre plusieurs autres stratobus rescapés et appelés par téléphone, eurent de concert avec les survivants de la colonie à lutter contre tous les fléaux, inondations, tempêtes, séismes, famines, épidémies, folies, anarchie. Le professeur Colliot-Jury, entouré d'une poignée d'hommes d'action, mena le combat et tandis que s'apaisaient les soubresauts du monde, parvint à organiser la vie des quelques milliers de survivants qui allaient former la souche de l'humanité nouvelle. Il fallut des générations et des générations pour que la civilisation atomique pût renaître, s'installer d'abord sur l'ancienne calotte glaciaire, puis gagner peu à peu tout le globe, à mesure que les hommes se multipliaient. Le professeur Colliot-Jury avait formé des élèves qui en formèrent d'autres. Ils orientèrent l'humanité vers une vie où la science était enfin mise au service exclusif de la paix et du bonheur. La nature les aidait, chaque couple avait un grand nombre d'enfants. Une langue universelle régnait, faite du mélange des anciens langages de tous les rescapés. Les îlots de survivants de diverses races retournaient à l'état sauvage que l'on découvrait çà et là au fur et à mesure de la conquête pacifique de la Terre, étaient scientifiquement absorbés, assimilés par métissage. On fonda un peu partout sur les continents des centres de repopulation et d'extension. Vint un siècle où il n'y eut plus de désert. La Terre formait une seule nation, d'une seule race.
C'était Les Voix de l'Avant-Garde, une émission de Youri présentée par l'auteur et réalisée par Gérard Herzog. Assistant de production, Marc Darnaud. Aujourd'hui, la littérature de science-fiction, avec la participation de Jacques Bergier, Pierre Deveau, Robert Canters et René Barjavel. L'extrait du voyage de Gulliver de Jonathan Swift et la nouvelle de René Barjavel, Les Rescapés du B-312, était lu par Pierre Reynal.
C'était Les Voix de l'Avant-Garde, la littérature de science-fiction diffusée le 16 avril 1958.
Thank you.